comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Comme beaucoup d'étudiants, Baptiste essaye de s'alimenter correctement à moindre coût.
J'ai toujours dans les placards une boîte de sardines, de la semoule et une boîte de ratatouille en conserve au cas où. Mais aujourd'hui, j'évite de le faire parce que je peux faire d'autres choses bien meilleures pour un prix tout aussi faible.
Une pizza à la poêle pour les étudiants qui n'ont pas de four. On va se faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti!
Le concept un plat en euro.
Ça propose des menus qui sont adaptés aux moyens qu'on a en tant qu'étudiant, c'est-à-dire souvent pas de four et pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent.
Des fois, on rentre et juste, moi, j'oubliais de manger. Du coup, j'allais me coucher parce que j'avais rien qui pouvait être fait en 2 minutes. Et après, je vais faire la vaisselle. Et... Donc, je le faisais pas.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster comment adopter une alimentation gourmande et équilibrée quand on est étudiant. L'équation est difficile à résoudre pour nos jeunes engagés dans des cursus ou des formations car ils ont le plus souvent très peu de moyens, très peu de temps, une culture culinaire limitée et des espaces de vie exigus et parfois sans cuisine. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant, tous les chiffres montrent que la précarité des étudiants ne cesse de s'aggraver en France. On va tenter d'y voir plus clair sur cette réalité alimentaire et on va même proposer aux étudiants, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent, des solutions concrètes pour mieux consommer et pour se mettre en cuisine avec notre invité du jour, Lila Djedi. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé la cantine Vagabonde à Paris en 2012, où vous faisiez le pari de rendre le bio accessible à tous. L'aventure s'est terminée en 2019, mais vous animez aujourd'hui des ateliers de cuisine durable parmi bien d'autres projets citoyens et solidaires que vous menez. Hein. Et vous venez de publier Cuisine du quotidien pour étudiantes et étudiants, 60 recettes végétariennes pour petit budget, c'est chez Tana Édition. Vous nous confiez juste avant cette émission qu'il n'y avait qu'une seule recette à base de pâtes. Ça, c'est une performance quand même.
Absolument.
Dans un manuel de cuisine pour les étudiants et les étudiantes. Nous irons également sur le terrain à la rencontre de Dorian, un jeune Strasbourgeois qui fait ses études dans la capitale. Comment il fait ses courses? Qu'est-ce qu'il cuisine au quotidien? Notre jeune reporter Léonard Pochon, lui-même étudiant, l'a suivi. Dans les fauteuils des chroniqueurs, notre monsieur vin Dominique Hutin et notre chroniqueur cuisinier Jean-Mata Christol. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Dominique.
Écoutez, vous portez une double casquette, François Régis, celle d'ex-étudiant, si je ne me trompe pas, et de Lyonnais aussi en
c'est
même temps.
C'est plutôt vous qui portez une casquette hein, aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, je fais exception. Et je vous propose de répondre à l'appel de la maison avec un vin lyonnais abordable que nous appellerons le Beaujolais Nouveau.
Ah, ça me plaît. Jean.
Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi encore en 2022, les pâtes, on en parlait à l'instant, et les patates tiennent le haut du classement de la nourriture préférée des étudiants. Et comment y remédier?
Eh oui, comment y remédier avec un légume de saison? Moi, j'ai la solution des jeux grâce à Jean-Mata Christol. Pour interagir dans cette émission en direct, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour consulter tous les contenus de l'émission, nos recettes, nos adresses, nos chroniques, nos podcasts, le chemin est tout tracé. franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans les marmites des étudiants et des étudiantes, je vous fais goûter, vous connaissez la tradition dans cette émission, une petite surprise à l'aveugle, c'est une boisson, mais j'aimerais que vous m'en disiez davantage.
Bah, d'abord sa couleur peut-être, une espèce d'oranger un peu cuivre, assez pâle, assez transparent. Un registre quand même plutôt porté sur l'acidité.
Oui.
C'est sec, pas de sucre résiduel. Moi, je me lance.
Oui.
Je vais être humilié en premier. Hein.
Il est entre
j'aimerais bien convoquer l'idée de la rhubarbe, peut-être de la framboise.
Ah.
Moi, j'étais sur la mûre plutôt. Plutôt mûre. Feuille de mûre, anémone.
Voilà. Mais ouais, pour ceux et celles qui connaîtraient, on peut penser aussi à la gueuse avec ce registre. La gueuse, donc les bières belges, avec le registre un petit peu d'acidité. Fine amertume juste derrière qui structure un peu le débat. Voilà, rhubarbe, framboise. Canneberge, peut-être un petit poil, bon, voilà, un mix.
On est dans des notes acidulées et fruitées, voire aussi un peu florales, donc vous n'êtes vraiment pas loin, et vous avez prononcé un mot qui m'intéresse, puisqu'on est dans l'univers de la bière. Mmh. On est effectivement dans une bière, ce n'est pas une gueuse, mais on n'est pas très loin du tout, il a dit des choses très intéressantes, en même temps c'est un professionnel de la profession, hein. Il y a effectivement beaucoup d'acidité, pas de sucre résiduel, c'est une boisson très sèche, bien pétillante, avec une pétillance, une effervescence quand même assez prononcée. Vous aimez ou pas, Lila?
Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que cette acidité est très agréable en bouche.
Mm-hmm.
Et le côté fruité, oui, on pouvait le sentir sur un fruit rouge.
Pour les amateurs de bière, oubliez vos repères par rapport à la bière classique.
Oui, parce que là,
c'est assez désarçonnant.
C'est pas moelleux comme de la bière, c'est un petit peu âpre, un petit peu râpeux. C'est ce côté fleur, oui, feuille de mur, un peu picot sur une feuille, un peu comme ça.
Et le côté sec est très agréable.
Ouais. Vous voulez la solution des jeux ?
Allez.
Ah, oui.
C'est une bière, mais une bière un peu particulière. C'est une bière de fermentation haute, dans le style des Berliner Weiss, tels qu'on les brasse à Berlin et sa région, c'est-à-dire très légère en alcool, assez acide, pas d'amertume. Mais cette bière a quelque chose en plus. D'abord, elle n'est pas du tout allemande, mais elle est, figurez-vous, catalane. C'est une création signée Cyclic Beer Farm, une brasserie fondée à Barcelone en 2016, spécialisée dans les bières sauvages. Les bières sauvages, Dominique, c'est-à-dire issues de fermentation spontanée.
Oui, c'est ça, comme les lambics d'ailleurs, comme les gueuses, etc.
C'est quand le liquide est laissé
à l'air libre, on n'ensemence pas.
D'accord.
Et la fermentation va démarrer spontanément.
C'est ça, levure indigène, et c'est une bière parfumée. Alors c'est ça qui est intéressant, et ça lui donne sa couleur. Avec... un, des fleurs d'hibiscus, donc le côté acidulé de la rhubarbe, etc., on le retrouve dans l'hibiscus, et des oranges. On utilise à la fois le zeste et le jus d'oranges qui proviennent d'un jardin bio juste à côté de Barcelone, puisqu'évidemment, tous les matières premières qui interviennent dans cette bière sont totalement bio et local, et ça apporte une belle rondeur fruitée. Vous avez parfaitement décrit le profil aromatique de cette bière naturelle.
Moi, je ne retrouve pas l'orange, mais...
Eh ben, l'orange, effectivement, peut-être que ça manque un peu de sucre, mais en tout cas, on retrouve une...
Au bout de 5 ou 6 verres, ça peut...
Mais l'hibiscus, je suis d'accord, oui, sur l'hibiscus, oui.
L'hibiscus, c'est très intéressant. Dites, ouais. Et on peut se procurer cette bière très originale sur buvance.com, un tout nouveau site marchand spécialisé dans les boissons de fermentation naturelle et sauvage. Ça va vous intéresser, Dominique. Vin, bière, pétillant naturel, hein, les petnats comme on les surnomme dans le jargon.
Dont le cidre est l'ancêtre, je tiens à le dire.
Bien sûr, il y a aussi d'ailleurs sur ce site, figurez-vous, et ça va vous intéresser, vous êtes notre spécialiste international du cidre, des pétillants de fruits, hein, il y a aussi des poirées. Et on doit la création de buvance.com à Julien Maillet, le fondateur de la liquiderie, dont je vous avais déjà parlé à ce micro il y a quelques temps. La liquiderie, c'est une cave qui est rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement de Paris, mais c'est aussi un bar rue de la Présentation, toujours dans le 11e, spécialisé dans les boissons vivantes et artisanales. Et je vous dis ça parce qu'on trouve à la liquiderie beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent relâcher un peu la pression le vendredi soir, le samedi soir. On peut y boire des boissons naturelles à des prix particulièrement accessibles. Le site buvance.com, où cette bière est facturée 9 euros le litre, ce qui est intéressant, avec des commentaires de dégustation. Il y a déjà pas mal de références et on peut se faire plaisir vraiment à tous les prix. Évidemment, on invite tout le monde, et nos étudiants en particulier, à boire avec modération. Et puis à noter dans votre agenda une petite information qui va vous intéresser. Le festival du livre gourmand de Périgueux, les 18, 19 et 20 novembre, ça doit vous rappeler des souvenirs, Dominique.
Oh là là, et eux aussi je pense qu'ils se rappellent de nous.
Oui, nous y étions l'an dernier pour une très très belle émission. Alors cette année, c'est Régis Marcon qui est président d'honneur. Il y a 120 personnalités attendues, des chefs, des auteurs, des éditeurs, des journalistes, pour des démos culinaires, des rencontres dédicaces, des dîners. Bref, c'est une très belle fête autour de la gastronomie et du livre. Et tout cela dans une ambiance périgourdine,
chaleureuse, oui.
Intense.
Oui, oui, oui.
On a bien rigolé l'an dernier. Le festival du livre gourmand de Périgueux, c'est le week-end prochain. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Maxime Goudard, Fabrice Rivaud. Et dans un instant, les solutions pour bien manger quand on est étudiant avec notre invité Lila Djedi. On en parle juste après. Lost Track, signé du trio de frangines californiennes Haïm. C'est un choix de Djoubaka. Bon dimanche sur France Inter. But it's never easy. Mastered my own luck, but it wasn't easy. I'm trying to feel alright around all these people. I try, but I'm just numb this time. Deep is cut that I can't feel. Find my grip on the steering wheel. I know I'm pacing. You know the deal. Burnt, but it's still frying.
J'étais venu ici il y a 2 ans, ces images elles avaient choqué énormément de monde de voir ces files d'attente de distribution alimentaire pour des étudiants. Aujourd'hui on en est où ?
Bah aujourd'hui on est 2 ans après et rien n'a changé, c'est-à-dire qu'on a encore 700 étudiants qui sont là ce soir et en plus ça s'est renouvelé à 80%, ça veut dire que les étudiants qui sont là ce soir sont en grande partie nouveaux, nouvellement arrivés, donc après la crise en quelque sorte.
Des repas équilibrés, des fruits, des légumes. Bref, ce sont des centaines de kilos de nourriture qui sont distribués à ces étudiants dans le besoin. Ceux qui distribuent, eh bien pour la plupart, ce sont des étudiants qui, eux-mêmes, pour certains, bénéficient de ces distributions alimentaires qui ont lieu plusieurs fois par semaine.
Quand la file d'attente des étudiants s'allonge devant les centres de distribution alimentaire, c'était un extrait d'un reportage du journaliste Rémi Buisine pour le Média Brut, où l'on entend donc le témoignage de Julien Mémon, le fondateur de Linky, une association très active spécialisée dans la redistribution d'invendus alimentaires à l'attention des personnes en grande précarité. Et ces personnes en grande précarité, ce sont de plus en plus des étudiants sous le double effet de l'inflation et de la crise de l'énergie. Comment vous réagissez à cette réalité, Lila Djedi ?
Eh bien, c'est terrible parce que c'est une réalité qui ne fait qu'augmenter. Et malheureusement, je pense que ça va continuer encore un petit peu. Donc c'est là où il faut vraiment proposer des solutions concrètes. Et trouver d'autres axes pour pouvoir accompagner tous ces étudiants hein, qui ont besoin d'une alimentation de qualité, qui ont besoin vraiment de travailler, donc on a besoin de bons carburants. Et puis, il y a des solutions, on va en parler. Ça dépend aussi du niveau de précarité, donc c'est assez important parce qu'il y a différents niveaux. Il y a des personnes qui ont un peu la connaissance et un peu les moyens, il y a des personnes qui n'ont ni la connaissance ni les moyens, et il y a des personnes qui ont vraiment très peu, voire moins de 20 euros par semaine pour manger, et là, ça devient extrêmement complexe.
Julien Mémon, d'ailleurs, le fondateur de Linky, déclarait aussi dans un article sur le sujet que 96,3% des étudiants bénéficiaires de cette redistribution, qui font la queue devant ces centres de distribution, vivaient sous le seuil de pauvreté.
Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, y a des étudiants qui sautent des repas. Aussi.
48% des étudiants sauteraient des repas, ouais. Paraît-il, selon l'Observatoire de la vie étudiante. C'est donc une réalité tout à fait désastreuse. On va s'intéresser au régime alimentaire et au profil culinaire justement de ces étudiants. A priori, on se dit que effectivement, peu de conditions sont réunies pour que ces étudiants et ces étudiantes mangent équilibrés, à leur faim, dans des budgets raisonnables.
Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, quand on est étudiant, eh bien, on quitte le nid familial, donc on n'a pas forcément une culture culinaire, donc déjà au départ.
Même si, a priori, certains sociologues racontent qu'il peut y avoir cette espèce d'euphorie à l'idée que on quitte le foyer familial, c'est donc un peu
l'autonomie.
Le lâcher-prise alimentaire, l'autonomie, une espèce de défouloir ou de régime alimentaire anarchique.
Oui, une autonomie sous perfusion quand même, parce que quand on rentre le week-end et qu'on rentre chez papa-maman, moi je me rappelle où je rentrais avec un quart de fromage, de la saucisse, des légumes du jardin. Enfin, il y a quand même cette espèce de pas qui est pris sur la vie autonome, où en fait, heureusement qu'on a encore nos parents,
oui,
ponctuellement, pour nous soutenir.
Pour ceux, effectivement, qui ont les parents qui peuvent les soutenir. Et il y a une grande partie d'étudiants qui n'ont pas cette chance-là et qui n'ont pas de culture culinaire également, parce que ça, c'est important aussi. Hein. Je crois que la règle, c'est quand même de cuisiner pour pouvoir bien manger. Il n'y a pas d'alternative. Mais encore faut-il avoir quelques notions. Sinon, c'est extrêmement compliqué, extrêmement anxiogène. Et puis, se nourrir 3 fois par jour. Donc, se préparer seul un repas 3 fois par jour, ça peut être assez déroutant.
Surtout quand on n'a pas de culture alimentaire, vous l'avez très bien dit. Et justement, l'une des grandes vertus de votre livre, c'est que c'est loin de n'être qu'un livre de recettes, en fait. Il y en a 60, hein, quand même, de recettes végétariennes. Vous allez nous expliquer pourquoi. Une seule recette de pâtes, ce qui, encore une fois, est une performance dans un livre dédié aux étudiants et aux étudiantes, mais toute la première partie du livre est précisément consacrée à des solutions autour de la consommation, apprendre à faire ses courses, se faire une certaine culture culinaire, être aussi dans les réflexes de recyclage, du pain rassis, des tiges de persil et j'en passe. Et tout cela est vraiment très, très instructif. La solution est encore pire à Paris, on est d'accord là-dessus?
Alors, la solution est peut-être plus difficile, vous voulez dire, par rapport aux sources d'achat et par rapport à l'habitat.
Le constat, en tout cas, la réalité est pire à
Paris.
Oui,
dans les villes, forcément, c'est très difficile. C'est très difficile.
Oui. Eh bien, on va justement, avant que vous nous proposiez des solutions très concrètes à destination des étudiants, on va se pencher sur le cas d'un étudiant à Paris. Il s'appelle Dorian, il a 19 ans, il est originaire de Strasbourg. Alors, il est étudiant dans la capitale en deuxième année de socio et d'histoire à l'université PSL. Il est boursier et hébergé dans une résidence universitaire du Crous, dans le 14e arrondissement de Paris. Notre jeune reporter Léonard Pochon, qui est lui-même d'ailleurs aussi étudiant et qui connaît ces réalités, eh bien il suit Dorian alors qu'il fait ses courses dans un supermarché tout à côté de chez lui.
Je ne fais pas vraiment de liste parce que je prends un peu ce qui me passe par la tête en fonction de mes envies et de la saison.
Bah écoute, je te laisse faire tes courses.
Je vais me diriger vers les pâtes, la base pour les étudiants. Pour changer un peu et prendre des pâtes plus longues, j'aime bien les linguinées, mais ils n'en ont jamais ici. Moi, j'aime bien les penne, celles que je prends d'habitude. Elles coûtent 71 centimes. Et donc là, je vais prendre des pois chiches. Bah, surtout que depuis que je suis étudiant à Paris, j'ai drastiquement diminué ma consommation de viande. Je mange de la viande quand je vais au restaurant universitaire à 1 euro. Donc ça, ça aide beaucoup, beaucoup aussi. Donc je peux me faire après plaisir sur les courses. J'aime bien faire aussi des grill toast au pesto. Bon, le pesto, je le fais pas moi-même, j'avoue. Et après, il y a un peu des aliments de base comme la sauce tomate, du parmesan que j'ai toujours un peu chez moi.
Est-ce que t'as remarqué une augmentation du prix dans les supermarchés ou tu le sens pas?
Si, quand même. Bah, l'huile, quand j'ai commencé mes études l'année dernière, j'ai acheté une bouteille, ça devait être 2-3 euros et cette année, elle était à 5-4 euros. Donc j'ai vu la différence de prix à ce moment-là, puisque c'est un truc que j'achète de manière annuelle.
Tu te prends pas de dessert au supermarché?
Non, j'essaie de manger un peu plus de fruits. Donc je préfère quand même privilégier les pommes que les yaourts et tout. Enfin, les yaourts, surtout quand j'en ai, ça vient des Too Good To Go. C'est une application anti-gaspillage. Ça nous permet en gros d'avoir les invendus de la semaine et les avoir à bas prix. Ça me permet d'acheter des plats de restaurant moins chers ou des produits de la boulangerie moins chers. Donc ouais, c'est pas mal.
T'achètes du surgelé?
Non, j'achète pas de surgelé parce que j'ai pas de congélateur. Et puis même en général, je préfère cuisiner moi-même que des plats déjà tout faits surgelés. Et ouais, j'achète surtout les conserves parce que quand on est étudiant, il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup. Donc c'est pratique et tout ce qui est sinon les produits périssables, j'en achète peu ici. Je vais chez le primaire. Bah, je crois qu'on a tout.
Allez, ici.
Et du coup, comment est-ce que tu fais pour payer tes courses?
J'ai la bourse et l'argent de poche et je me débrouille avec ça.
Bonjour, j'ai mis en bas.
Oui.
Allez-y.
Là, j'en ai pour 8,13€, sachant que j'ai pas pris tout ce que je prends d'habitude en une semaine parce qu'il y avait des choses que j'ai déjà chez moi.
Ton panier hebdomadaire tourne autour de combien? 10, 20, 30 euros par semaine?
15, 20 euros.
Que au supermarché ou partout?
Non, que au supermarché. Si j'y rajoute des trucs un peu partout, ouais, on rajoute 10 euros en plus, quoi.
Un panier hebdomadaire de 30 euros par semaine pour Dorian, notre étudiant à Paris. Ça vous paraît être dans les chiffres, hein, vous évoquiez tout à l'heure, Lila, 20, 30 euros de budget hebdomadaire pour l'étudiant à Paris?
Ça, c'est pour, c'est vraiment 20 euros, c'est vraiment pour les personnes qui sont très très précaires. Donc à côté, il faut avoir quand même des astuces et des endroits où on peut avoir une alimentation à moindre coût. Après, je dirais qu'on peut avoir une assiette de qualité. En tout cas, moi, c'est le travail que j'ai fait dans ce livre. Hein, et vraiment, en étudiant tous les prix, entre 28 et 33 euros par semaine. Évidemment, ça dépend de la saison. Parce qu'en été, au printemps et en été, c'est beaucoup plus coûteux hein, sur les fruits et légumes. Mais globalement, c'est ça, en tout cas, pour une personne qui a un budget correct, je dirais.
À condition d'adopter les bonnes solutions. Alors, on y va concrètement, justement, avec des solutions que vous évoquez et que vous listez dans votre livre « Cuisine du quotidien pour étudiantes et étudiants », à commencer par une initiative qui vous tient à cœur, c'est le groupement d'achat. Alors, visiblement, il s'y adonne pas directement, Dorian, même si on va voir qu'il utilise des applis qui permettent justement de trouver des ressources moins chères. Le groupement d'achat, en quoi cela consiste?
Alors, le groupement d'achat, c'est très simple. Nous, notre petite famille, on en profite déjà depuis une douzaine d'années. L'idée, c'est de rassembler des producteurs. Donc, on est plutôt sur des producteurs, évidemment, qui travaillent avec sens, qui respectent la terre, qui respectent l'humain qui travaille la terre. Et c'est un petit peu comme le système des AMAP, sauf qu'on n'a pas de contrat solidaire où on vient un petit peu quand on veut, on commande en amont. Donc, on peut commander une semaine, deux semaines avant. Et on reçoit tous les mois des produits de groupements donc de producteurs qui se sont rassemblés et il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est vrai que les prix sont vraiment très intéressants, mais surtout ce sont des prix justes, c'est-à-dire que ce sont les producteurs qui décident des prix, on ne négocie pas du tout. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et qu'il y ait quand même pas mal de personnes, parce que dans notre groupement on est quand même 150 à peu près, eh ben ça permet d'avoir des coûts qui sont relativement intéressants pour tous.
Dans le monde étudiant, de nombreux groupements d'achat se sont constitués. Alors, il y a l'exemple de la Sorbonne. Il y a Sciences Po également qui s'y est mis.
Oui, Sciences Po. Alors, Sciences Po, c'est une AMAP qui s'appelle Potiron.
D'accord.
On en a à la Sorbonne également. Et puis, il y a aussi, donc, il y a différents, établissements qui le font dans les universités. Et il y a surtout VRAC Université, que vous connaissez peut-être.
Boris Tavernier. Formidable.
Et ça, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont créé des groupements d'achat à Lyon, Bordeaux, Rennes et Strasbourg, dans différentes universités. Et en plus d'avoir créé quand même des groupements d'achat qui sont très accessibles, ils ont fait très fort parce qu'ils ont trois prix différents selon le budget. Donc moins de 20 €, donc vraiment la précarité, un petit peu plus. Et chacun décide, il n'y a pas de stigmatisation. Donc chacun décide de ce qu'il va payer. Et ça, moi, je trouve que c'est assez grand quand même.
Dominique Hutin.
Juste pour prolonger, on parle de fac, il y a celle d'Angers par exemple avec une association qui s'appelle Truffe ton panier qui permet aux étudiants,
Truffe
comme la truffe.
D'accord.
Voilà. Truffe ton panier qui permet aux étudiants de prendre leur panier de légumes frais moins cher et petite coquetterie de prendre des cours de cuisine s'ils le souhaitent. Et donc ça peut-être qu'effectivement ça vient combler un peu le vide et c'est Muriel Roudeau de Chinon qui nous alerte sur cette chose.
Jean.
Oui, j'allais y venir. L'écueil peut-être du problème du vrac, c'est que les étudiants, quand vous le disiez tout à l'heure, François-Régis, sont pas forcément de culture culinaire, c'est d'arriver à cuisiner ces produits en vrac. Et c'est peut-être là, enfin, c'est sûrement là que votre livre arrive et qu'on a cette espèce de continuité. Une fois qu'on a les produits, ok, qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
Jean Matacristol a raison.
Oui.
Non, mais.
Par principe, oui.
Ah oui, carrément. Monsieur est sûr de lui. Non, il est vrai que il faut avoir une certaine culture culinaire pour adopter des produits, on va le voir avec des légumineuses ou autres, c'est toujours plus compliqué qu'acheter effectivement une pizza sous blister.
Oui, absolument. En fait, il faut démarrer, enfin, au départ, les bases. Le problème, c'est que on a tout complexifié. Le système alimentaire aujourd'hui est extrêmement complexe. Depuis 30 ans, je crois qu'on peut dire qu'on a un peu délégué quand même notre rôle en tant que parents nourriciers à l'industrie agroalimentaire. Mmh. Donc, le constat, il est clair, depuis 30 ans, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne cuisinent quasiment plus.
En gros, c'est l'industrie agroalimentaire qui prend le relais de la culture culinaire familiale.
Ah, très clairement, moi je pense qu'il y a quand même ce côté-là.
C'est aussi lié peut-être au mode de travail qui s'est déstructuré. Absolument. Avec des horaires différents dans la cellule familiale. On n'a plus le papa, la maman autour de la table avec tout le monde.
Oui. Oui, et puis on nous a dit aussi quand même que cuisiner c'était une perte de temps. Quand même. Et qu'on gagnait du temps pour autre chose, pour travailler, essentiellement. Et ça, c'est un problème. Parce que cuisiner, c'est sûrement pas une perte de temps. D'abord, parce que c'est une vraie culture qu'on se construit. C'est un partage aussi en famille ou avec des copains. Et puis, c'est accompagner des systèmes vertueux, c'est se faire du bien, respecter son corps. Donc, il y a plein d'avantages vraiment à cuisiner au quotidien.
Et bien, justement, on va voir qu'on peut renouer avec le geste culinaire. Et c'est ce que fait précisément Dorian, notre étudiant à Paris qu'on va retrouver. Il est de retour chez lui. Alors, il habite à Paris, un studio de 24 mètres carrés avec cuisine dans sa résidence du Crous Jordan. On est rue de la Tombissoire dans le 14e arrondissement de la capitale. C'est des tout nouveaux bâtiments flambant neufs et visiblement assez confortables. Qu'est-ce que Dorian va cuisiner pour se préparer à manger?
Voilà, c'est chez moi. Il y a un petit coin cuisine, kitchenette. Donc dans ma cuisine, j'ai deux plaques de cuisson. J'ai un évier pour faire la vaisselle et je me suis acheté un égouttoir. Mais un de compétition parce qu'il a deux étages et parce que sinon j'ai trop de vaisselle. Et j'ai aussi un mini frigo dans ma cuisine. Et j'aimerais bien m'acheter un micro-ondes bientôt parce que c'est du mal à faire à manger pour une personne. Donc soit je fais à deux et j'invite un pote à manger, soit je conserve le reste. Mais le truc c'est qu'après je dois réchauffer à la poêle et ça me prend du temps.
Et donc là on est rejoint par Raphaël.
Je suis en deuxième année du CPES de PSL. Je suis de nationalité française mais le dernier pays où j'ai habité c'est la Roumanie, à Bucarest. Alors l'année dernière, j'avais, pareil que Dorian, une kitchenette comme ça. Et mon meilleur ami, c'était Picard. Je prenais souvent des plats surgelés. Après, on finissait à la bibliothèque tard le soir, vers 22h. Et après, on prenait nos plats et on rentrait chez nous pour les chauffer. Sinon, je cuisinais des pâtes très souvent. Et c'était le combo cordon bleu-pâtes.
Et alors, qu'est-ce que tu nous prépares?
La recette de pâtes, un peu la libanaise avec des pois chiches, du cumin et un peu de coriandre. C'est une recette one pot pasta, donc c'est super bien parce que On met un peu tout dans la poêle et on attend que ça cuise. Et à la fin, normalement, c'est bon. Et ça fait pas beaucoup de vaisselle aussi, effectivement. Donc c'est pratique et rapide. Donc là, je vais découper les oignons.
Et sinon, le midi, ce qui était cool, c'est qu'on mangeait au restaurant universitaire. Du coup, on avait déjà des plats chauds et tout, et ça faisait bien. Bien cuisiné avec une bonne sauce. C'est les sauces qui me manquaient beaucoup.
Donc là, je vais allumer ma plaque de cuisson électrique pour ajouter les oignons dans l'huile et le cumin.
Au début de l'année, quand mes parents ils m'ont installé, j'ai eu ma mère qui m'a ramené toutes les épices qu'on avait à la maison. Je ne me servais pas des épices, alors que ça change tout. Mais je ne savais pas quoi mettre, si ça marchait de le mettre dans la poêle ou pas. Donc, je ne les utilisais pas.
Là, j'ai ajouté du sel. C'est du sel que ma grand-mère m'a offert. C'est du sel au thym et saveur citron. Parce que je n'ai pas de sel normal. Comme j'ai... ma balance ne marche pas, je vais mettre un peu à la louche les pâtes. Je crois que c'est 250 grammes dans la recette, enfin, d'habitude, pour 4 personnes. Donc je vais mettre la moitié de ça. Je rajoute de l'eau dans la casserole. J'ai mis un verre et demi. Et là, je vais rajouter 5 centilitres d'huile d'olive. J'ai des éco-cups et c'est ce qui me sert de verre doseur. Et je vais rajouter encore des pois chiches. Je vais mettre un minuteur, on reviendrait dans 8 minutes pour voir ce que ça donne. Et peut-être rajouter de l'eau. Là, je vais essayer de hacher la coriandre, mais en fait, j'ai perdu ma planche à découper. Donc, je le fais dans une assiette.
Par rapport à la nourriture, enfin manger toute seule, ça me paraissait impossible. C'était dur d'être toute seule. Je disais à mes parents que non, j'allais pas manger toute seule, que je préférais pas manger que manger toute seule. Je me suis juste habituée. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus une corvée de faire à manger.
Donc là l'eau s'est un peu évaporée ou est absorbée, donc ça vient faire une petite couche sur les pâtes là, une espèce de sauce. Je vais rajouter un peu de citron, j'ai vu qu'il proposait ça dans la recette de ce livre. Sans recette, pasta partie, super débutant. Et enfin, je viens rajouter la coriandre. Attends, mais la coriandre elle est coupée n'importe comment. Désolé, c'est ça être étudiant. Je vais goûter une dernière fois pour valider. Il manque un peu de sel. Mais j'aime bien le petit goût citronné par contre. On va mettre tout ça dans des assiettes ou des bols. Là, je pensais que c'était pour 4, mais là, ça fait 2-3 personnes. Ça tombe bien, on est 3. Donc là, j'ajoute quelques feuilles de coriandre et un peu de cumin pour que ça ait l'air un peu plus joli dessus. Bah, je te laisse goûter, Raphaël.
J'avoue, c'est bon.
Ça te change des pâtes au beurre ?
Ouais, et de la sauce tomate aussi, parce que j'en peux plus. Je vais en reprendre, comme quoi c'est bon.
Tu referas la recette ?
Oui, faut que je la prenne.
Franchement, ça fait une recette de pâtes avec une sauce bien onctueuse qui change. Et du coup, je pense que le one pot pasta, c'est un bon compromis pour faire des pâtes, mais se faire un peu plaisir aussi. Merci beaucoup.
Je t'en prie. Maintenant, on va déguster.
Eh bien, on va le déguster, ce one pot pasta. Alors, on l'a pas tout à fait en plateau, mais en tout cas, il fait envie. Reconnaissons-le, avec sa petite touche de cumin, la coriandre fraîche. Vous disiez pendant ce reportage justement, Lila, que les herbes aromatiques, ça peut être un peu rédhibitoire.
C'est un peu coûteux. C'est un peu coûteux en tout cas quand on choisit toujours pareil, hein, une herbe aromatique de qualité. Oui.
C'est vrai que le bouquet dans un imprimeur parisien, c'est vite 1 ou 2 euros.
Ouais, c'est entre 1,30€ et 2€.
En supermarché, c'est 1,50€ pour 3 brins qui se chamaillent, ah, voilà. Alors qu'au marché, pour un gros bouquet, ouais, on peut être aux alentours d'1€.
Je trouve que c'est grand absent le mot marché. On parle de produits frais, on ne parle pas de marché. Alors c'est vrai que les horaires des étudiants ne leur permettent pas d'avoir accès au marché. Mais parfois, on trouve des marchés de fin de journée.
Mmh. Oui, et c'est vrai que sur les marchés, il y a toujours 2-3 producteurs qui travaillent vraiment bien et qui proposent des produits de qualité et délicieux et avec lesquels on peut échanger. Donc on comprend aussi leur travail et comment ça se passe et leurs contraintes au quotidien. Et puis, si on arrive un petit peu en fin de marché, on peut avoir quand même des prix un tout petit peu moins chers.
Et justement, pour faire baisser les prix de son assiette, c'est se passer aussi de viande. Et c'est un réflexe de plus en plus développé dans le monde étudiant. Hein. J'ai mis la main sur un chiffre. 2% de la population française se déclare végétarienne quand 13% des étudiants affirment ne pas manger de viande et ils sont 70% à en avoir diminué la consommation. Ce qui explique d'ailleurs aussi que votre livre se concentre exclusivement sur des recettes sans chair animale en fait, hein, sans poisson, sans viande.
Oui, alors d'une façon générale, moi c'est ma cuisine hein, depuis 12 ans et au restaurant c'était une cuisine végétarienne et c'était très important pour moi déjà au départ parce que c'était surtout pour conscientiser et comprendre que la plupart des viandes qu'on a chez nous, d'abord ça coûte cher et puis ensuite il y a quand même une surexploitation des animaux, il y a la déforestation, etc. Donc c'était aussi de s'offrir une assiette peu coûteuse mais également écologique et qui met du sens dans nos assiettes.
Bon réflexe de Dorian d'associer les pâtes aux pois chiches.
Très bon réflexe parce que quand on associe une céréale et une légumineuse, on a ce qu'on appelle les acides aminés, donc qui sont des protéines qu'on va trouver dans les protéines animales, que le corps ne fabrique pas. et qui sont essentiels. Donc c'est vrai que quand on mange pas de viande, c'est intéressant et c'est important de mixer. Et d'ailleurs, on le voit dans tout plein de cultures, et des cultures très modestes, hein, où on associe toujours une céréale et une légumineuse.
En Inde, dans le sud de l'Italie, au Maghreb, un peu partout.
Un peu partout.
Céréales et légumineuses. En parlant de légumineuses, on va passer à une légumineuse peut-être un peu moins connue et « successful » entre guillemets que le pois chiche, c'est...
Le pois cassé.
Le pois cassé, moi j'adore ça, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est malheureusement une légumineuse, un légume sec, on peut le reconnaître, hein, totalement oublié, alors qu'il est bon marché et qu'il est délicieux, on en a la preuve. Dans nos assiettes, vous nous avez préparé quoi, Lila Djedi ?
Alors, je vous ai préparé une crème de pois cassé avec un œuf mollet, un petit peu de cacha, donc la cacha c'est du sarrasin grillé, et puis quelques petits croutons.
C'est bon.
Et on est sur une assiette à 1 euro. Donc c'est une assiette à 1 euro.
À 1 euro.
À 1 euro.
On
et
parle
ça...
d'un œuf mollet, d'une purée de pois cassé. Cacha, oui. Définition de la cacha.
Cacha, c'est du sarrasin grillé, pardon. Et mais il faut que je vous explique quand même. Donc c'est vrai que le pois cassé, moi je l'achète en vrac. En vrac, c'est moins coûteux que quand on l'achète en sachet. L'œuf mollet, eh bien, on l'a dans le groupement d'achat et à la MAP. Et on est à moins de 2 euros en œuf bio, les 6 œufs. Et ça, je vous mets au défi de trouver ça dans...
Le sarrasin grillé, on peut le recycler sur d'autres recettes
parce Absolument.
Que ça apporte un petit goût noiseté absolument délicieux.
Oui,
c'est craquant.
Et ça amène des saveurs autres et différentes. Et là, on se construit aussi une culture culinaire et il y a ce contentement et ce plaisir. Et on peut l'acheter en vrac aussi. Alors c'est vrai que le sarrasin grillé, ça coûte peut-être un peu, mais on peut tout à fait prendre 50 grammes, 100 grammes et on va l'utiliser sur 4-5 recettes.
Et là, on parle vraiment d'un plat complet.
Et on parle d'un plat complet, absolument.
Il y a un œuf, une légumineuse, il y a une petite pointe de céréales avec les croutons de pain, mais également le sarrasin.
Et un pain intégral, s'il vous plaît. Parce que c'est pareil, autant prendre du bon pain. Quand on l'achète en quantité, on peut avoir des prix vraiment intéressants dans des magasins bio. Et c'est pas loin, franchement, du prix de la tradition, quoi. Donc, autant avoir un pain avec une céréale qui nourrit, qui apporte des saveurs et qui est de qualité.
Et le crouton, c'est aussi une bonne façon de recycler le pain légèrement rassi.
Absolument, complètement.
Du pain complet qui va mieux vieillir que de la baguette, en fait.
Absolument, on peut le garder aisément 5 jours, et si, effectivement, il devient un peu dur, on le cuit, on en fait des croutons, on met dans un grille-pain si on en a un, enfin voilà, il y a plein de solutions.
On commence à progresser dans les solutions concrètes pour aider les étudiants à se nourrir de manière équilibrée avec cette recette qui figure évidemment sur franceinter.fr, à la page on va déguster œufs mollets, cacha, pain grillé et purée de pois cassé. On se retrouve dans un instant pour évoquer le légume préféré de Jean Matacristol, ou en tout cas un légume de qui pourra plaire à nos amis étudiants. Il y aura du Beaujolais nouveau dans les verres de Dominique Hutin et puis d'autres recettes avec vous et notamment un dessert étonnant. Lila Djedi, ça c'est dans un instant.
Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'ai raté quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans. Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs, sans la vérité sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. Je suis content rien que de la voir, avant je voyais que l'immeuble d'en face. J'essaie d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes. Une fois sûr de je rate mes plates, donc en attendant je mange des pâtes. J'ai max une barre de 3, j'ai lève le bras pour capter. 20 minutes pour mater, une vidéo qu'en fait 4, ouais. Je rejoins mon père au stade, on prend de buts, on prend de bières. Je retourne chez moi, j'allume FIFA, je reprends ma lèvre, je continue de perdre, ouais.
Seul, avec du monde autour, vous avez reconnu
le lobby normand, Orelsan.
Orelsan, un extrait de son nouvel album. Seul, avec du monde autour, c'est une définition possible du statut de l'étudiant, ça, non?
Ah oui.
Seul avec du ça monde peut, autour.
Ça dépend un peu de la personnalité aussi, mais c'est vrai que l'étudiant, en tout cas quand il est dans son studio, il est seul, et quand il doit gérer son quotidien alimentaire, il est seul.
Et c'est pas toujours facile de cuisiner pour soi seul. C'est d'ailleurs des stratégies un peu particulières dans le sens où, dans votre livre, effectivement, toutes les portions, alors non seulement elles sont provisionnées évidemment, les ingrédients, elles sont tarifées, c'est-à-dire qu'on a exactement le coût de revient de chaque recette, et elles sont expliquées pour une portion.
Oui, l'idée, c'est vraiment de gagner en autonomie et en culture culinaire, et de se construire soi, de prendre ce temps-là, qui n'est pas si excessif que ça, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour cuisiner pour soi. Et puis après, quand on est avec les copains, vous avez vu à la fin, il y a des menus avec les copains, les apéros dînatoires, les brunchs, etc. Là, on est sur plusieurs personnes.
Il y a des très belles recettes, il y a vraiment des recettes qui font très envie, avec même des influences étrangères, des rouleaux de printemps d'été à 6,50€. Par personne, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est exceptionnel. Il y a le bowl d'hiver à 1,50€, il y a une dizaine de rouleaux, ouais. Évidemment, on l'a pas dit, l'omelette pomme de terre et herbe à 1,50€, bref, il y a deux très belles recettes pour nos étudiants. Les réactions se bousculent sur franceinter.fr à la page on va déguster.
Françoise Niel-Aubin qui nous souffle, alors non pas une recette mais un dispositif, elle dit « Depuis des années, je milite pour le parrainage pour ceux des étudiants qui sont éloignés de leur famille et je leur apporte une aide tant affective que matérielle et financière. » Ça pourrait venir peut-être combler tout ce qu'on a souligné quant à la solitude des étudiants. Et puis une autre, on prend un petit peu large avec un frisson exotique. Et Catherine Polycarpe de Nanterre qui nous dit « Moi, j'étais étudiante avec des Africains, des Comoriens qui m'ont appris leur cuisine. Ils font cuire le riz, on ne jette pas l'eau, le riz l'absorbe. Et ils utilisent un peu le lait comme notre crème fraîche. »
Ah bah voilà, le lait peut-être un peu moins cher que la crème fraîche. En voilà une solution alternative maline.
On évoquait le lobby normand, là, je pense qu'il est débordé.
Mais c'est toute la, famille flambeau de Dominique qui est en train d'écrire, en fait, sur les réseaux sociaux de France Inter. Notre chroniqueur Jean-Mathieu Christophe faisait le tour du studio pour garnir nos assiettes avec un légume mystère. Il revient en plateau pour nous parler de ce légume qui pourrait bien séduire les étudiants.
On va déguster sur France Inter.
Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, il y a un mois à peu près, la photo d'un sandwich servi au crous de Rennes.
Ah, oui.
En début de mois, voilà. Une demi-baguette, un petit peu de beurre, de la salade triste et quelques petits morceaux de poulet, mais alors tout petit, petit. Alors oui, c'est le jeu, hein, on va pas au crous pour fêter son anniversaire. J'y étais, j'ai tout vu, moi aussi j'ai été étudiant. Imaginez mon désarroi à 18 ans, sortant de ma campagne pour découvrir qu'avec ma chambre de résidence universitaire, plutôt spartiate, j'allais devoir partager sur le palier non seulement une salle de bain, mais aussi une cuisine collective.
Alors tout cela pourrait donner lieu à un scénario de comédie romantique ou de comédie sociale?
Oui, par exemple, comment j'ai rencontré l'amour grâce à du gel douche, ou comment des voisins m'ont fait découvrir leur culture en partageant leur gamelle. Ce qui me fait arriver à un point déjà abordé, les moyens financiers. On peut prendre des pincettes avec des informations pas toujours contextualisée, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, les boursiers sont de plus en plus nombreux à se présenter aux distributions alimentaires mises en place sur les campus. Un autre chiffre, pour compléter ce tout à l'heure, depuis la crise du Covid, c'est la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur qui ont moins de 25 ans. Donc c'est un fait, qu'il s'agisse de la cuisine centrale, d'un crous, des cuisines d'un grand restaurant ou d'une kitchenette d'étudiants, les coûts de production ont augmenté et tout est devenu plus cher. Alors les prix augmentent ou les portions diminuent et parfois les deux.
D'où le fait, on y revient, hein, le fait de manger des pâtes et des patates et, des patates.
Alors oui, car la vie étudiante repose sur une contradiction majeure, ce sont ceux qui devraient le plus dormir et le mieux manger qui dorment le moins et s'alimentent le plus mal. Se nourrir quand on est étudiant, c'est devoir faire la balance entre ce qui est
bon pour le corps, c'est-à-dire nourrissant, bon pour le porte-monnaie, c'est-à-dire abordable, et bon pour la tête, c'est-à-dire aussi savoureux. À la croisée des chemins, il ne reste plus que deux choix, les pâtes et les patates, comme on l'a écouté dans le reportage tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous pouvez mettre sur des pâtes ou des patates pourra aller sur n'importe quel légume. Car comme vous l'avez constaté grâce au livre de notre invité, François Régis, il n'y a pas de légumes mornes ou de céréales tristes qui ne puissent être améliorés par la grâce d'un condiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai préparé trois façons. Je vous ai préparé le butternut en trois façons.
Le butternut, pardon. Alors on parle vraiment d'une courge de saison, hein, alors, famille des cucurbitacées.
Complètement la saison. Le premier point important, puisque cette saison, le prix moyen est plutôt bas. On est aux alentours de 2 euros le kilo. Dans les recettes que j'ai faites aujourd'hui, j'ai trouvé des petits butternuts à 1,65 euros pièce en supérette. Mm-hmm. Normalement, quand vous avez fini de manger un kilo de butternut, vous ne bougez plus. Hein.
Est-ce qu'on a beaucoup de déperditions sur ce...
Et non,
non assez alors, peu. Pas beaucoup.
Bon, il y a le débat, faut-il éplucher?
Alors moi j'épluche le butternut parce que c'est une peau qui est un petit peu épaisse. Quand vous le faites en soupe, une fois que c'est mixé, personne ne voit la différence. Il y a un peu de perte de volume parce qu'il y a le placenta et les graines au milieu. Mais après, dans les faits, il y a peut-être 5% de perte. Je vous ferai un calcul pour la prochaine fois si vous voulez, Dominique. Deuxième point, le goût du butternut. Juste assez bon pour s'accompagner d'un petit bout de beurre et juste assez fat pour supporter toutes les fantaisies. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait fantaisie. Et troisième point, c'est la cuisson, puisque le butternut, vous pouvez le cuire coupé en deux au four à 200 degrés. Alors moi, je le mets à l'envers pour éviter qu'il brûle sur un petit peu d'huile, sur une plaque. Voilà, c'est très bien.
Pour le coup, on ne l'épluche pas, évidemment.
On l'épluche pas, comme ça on gratte après à la cuillère à soupe dedans. En cube, à l'eau bouillante salée, c'est l'affaire d'une dizaine de minutes, ou au micro-ondes, deux fois trois minutes, dans un récipient couvert avec un petit peu d'eau.
Ah, vous n'avez donc rien contre le micro-ondes ?
Fondamentalement, si, mais je pense aux étudiants qui ont chez eux un malheureux frigo et un petit micro-ondes de rien. Donc parfois, le micro-ondes, ça peut sauver un repas. Donc à titre personnel, moi je préfère la cuisson au four, mais chacun s'ajustera comme il peut. D'où effectivement la cuisson à l'eau, qui on a un petit peu de perte de goût, mais ça peut effectivement faciliter la tâche. Donc pour les recettes que je vous ai proposées aujourd'hui, la première version avec un pesto que j'ai fait à la va-vite avec un fond de frigo que j'ai juste complété hier en allant acheter un paquet de roquettes à la supérette.
C'est super bon ça.
C'est un peu poivré parce que j'ai mis beaucoup de roquettes.
Ça régale.
De l'ail.
Très grosse gousse d'ail.
Ouais, moi j'adore.
J'ai une tête d'ail et j'ai une très grosse gousse d'ail.
Elle est bien grosse la gousse.
Ouais, ouais, c'est une belle gousse d'ail. Puis j'ai mis un peu de piment d'Espelette aussi parce que je suis joueur. Donc sur cette recette, j'ai mis une petite botte de basilic, trois bouts de persil, un peu de roquettes. J'ai mis des noix de cajou. Du fromage râpé que j'ai râpé moi-même et un sachet de fromage comme l'étudiant qu'on écoutait tout à l'heure, ça ira très très bien. Et plus mon 1,65€ de butternut, je suis à 2,75€ pour une portion, en sachant qu'avec tout ce pesto, j'ai 7,75€ de pesto, mais ça me fait un grand pot à confiture de pesto. Donc ça c'est pareil, ça se garde. Et puis si on fait du pesto maison, même comme un pesto industriel, l'huile remonte à la surface, donc ça permet de garder quand même le pesto assez longtemps.
Et voilà. Pour le coup, manger avec des pâtes, et là on va pas se gêner. Hein.
Et puis le pesto, ça va avec tout.
On
ça
se
va
croira
avec, avec du panais, c'est bon avec le panais, le pesto, j'aime bien ça. Ça c'était ma première recette. Ma deuxième version, c'est avec une réduction de miel, de sauce soja et d'huile de sésame, qui sont des ingrédients un tout petit peu plus onéreux, mais encore une fois, on n'en met pas beaucoup, puisqu'on est on est de l'ordre de la cuillère à soupe. Et j'ai mis des noix de cajou également. C'est les mêmes noix de cajou qui m'ont servi à faire le pesto.
Légèrement torréfié.
Oui, je les ai grillées un petit peu, comme ça je fais une pierre deux coups. Et puis j'ai mis un petit peu de coriandre par-dessus, vraiment trois brins pour le goût. Là, je suis à 2,80€ par personne. Et ma dernière version, celle qui ressemble à une petite crotte orange dans votre assiette, à votre gauche, François Régis.
C'est bien vendu.
C'est bien vendu, hein, c'est joli, c'est plaisant.
Est-ce qu'on va goûter?
Il faut quand même goûter pour se faire une idée. Et c'est une version sucrée. Avec un peu de lait de coco, du miel et du citron. Donc là, c'est pareil.
Super bon.
C'est fait une crème de sœur. Oui, c'est mixé. C'est une crème dessert. Voilà, ça va tout seul. Alors, j'ai un peu triché
très bon
pour aujourd'hui où j'ai mis de la vraie vanille. Mais sinon, avec du sucre vanillé, ça marchera très bien aussi. Voilà, toutes ces recettes que j'ai faites avec du butternut, ça fonctionnera bien entendu avec du potimarron et de la patate douce, qui sont également des légumes de saison.
Un butternut, trois possibilités par Jean Matta-Christol. Toutes vos stratégies culinaires sont sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
Bien entendu.
Et ben bravo, franchement c'est bien joué. Hein.
Là
on peut vraiment métamorphoser un légume avec des goûts tout à fait différents quand l'univers de condimentation change.
Et c'est ça qui est important, c'est que du coup on a différentes saveurs, différents horizons gustatifs.
Un tout petit mot sur une recette qui nous a fait de l'œil et que vous pratiquez aussi beaucoup vous à titre personnel et qui pourrait plaire à nos étudiants, c'est cette soupe irlandaise à 95 centimes d'euros par personne. Et oui. Pour le coup, elle est nourrissante, racontez-nous.
Ah, pour le coup, elle est nourrissante. Moi, j'avais l'habitude, quand j'habitais à Londres, de manger ça au petit déjeuner. Donc, c'est comme un porridge salé, donc avec des poireaux. Donc, on prend vraiment un petit morceau de poireau, des flocons d'avoine, si on aime d'autres flocons, mais c'est vrai que les flocons d'avoine sont quand même les plus abordables. Soit un petit bouillon, soit on commence à faire suer les poireaux. On rajoute les flocons d'avoine, un petit peu d'eau, on laisse mijoter quelques minutes. Et on a une soupe qui est vraiment délicieuse. Alors, si on veut, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive. Si on a un petit peu de parmesan, on peut. Mais si on n'en a pas, ça reste quand même absolument délicieux. Et non seulement, moi, j'aime cette recette au petit déjeuner, parce que ça permet d'avoir des recettes salées au petit déjeuner, parce que le sucré, quand même, au petit déjeuner, c'est pas ce qu'on fait de mieux.
Et mais on peut la préparer la veille, pardon, et la réchauffer le matin.
Évidemment.
Parce que la mise en œuvre du poireau,
On peut émincer le poireau, par exemple. On peut émincer le poireau. Après, ça cuit vraiment 5 minutes. Hein. Et préparer la veille, oui, on peut, mais on perd quand même, je trouve, en texture. Mais on peut, pourquoi pas. On perd juste un petit peu de texture. Et ce qui est sympa, c'est le soir aussi, quand parfois, parce que ça m'arrive aussi, même si je suis passionnée de cuisine, j'ai pas tellement envie de cuisiner, eh bien, je me fais une petite soupe comme ça, avec un peu de parmesan dessus, et c'est franchement très sympa.
La soupe irlandaise de Lila Djedi, ça sent les échanges linguistiques avec l'Irlande, non ?
Ouais, ben ça sent. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était surtout Londres. Hein, quand j'habitais à Londres toute jeune, et c'était le petit plat quand c'était la disette, quoi.
Et la recette est aussi sur notre site. C'est très nourrissant et ça se mange au petit déjeuner, au déjeuner, pourquoi pas au dîner, avec des flocons d'avoine qui sont pas chers et très nourrissants. On arpente la rue de la soif en compagnie d'étudiants, mais aussi avec Dominique Hutin. Le Beaujolais coule dans nos verres, sachant que la fête du Beaujolais nouveau approche. Ce sera jeudi 17 novembre.
On va déguster sur France Inter.
Ouais, c'est la semaine prochaine. On va croiser ce jour très particulier dans notre calendrier, le troisième jeudi de novembre, qui annonce toujours la sortie officielle du Beaujolais nouveau. Alors vous le savez, c'est une espèce de rituel depuis 1951. Mais j'aimerais aujourd'hui porter un éclairage un peu nouveau avec une dégustation alimentée par de jeunes vignerons. Alors ils sont installés depuis moins de 5 ans et c'est une manière d'évoquer évidemment le travail de ces vignerons et de ces vigneronnes, dont certains étaient, il y a encore peu de temps, des étudiants. Alors vous me permettrez quand même d'en citer quelques-uns à la volée, parmi ceux que j'ai spécialement appréciés. Pourquoi ? Simplement c'est pour les encourager, pour ne pas donner à tout le monde d'avoir la lumière portée sur son travail. Donc ils s'appellent Audrey et Thibaut Girin, c'est Philippe Vier, c'est Aurélie et Fabien Romani, c'est Gaëtan Mélinon et c'est Benoît Mercier. Vous en trouverez plein d'autres sur mon carnet de vignes qui est mis en ligne. Qui est mise en ligne, on peut faire une liaison sur cette chose-là.
Mise en ligne.
Mise en ligne, ça marche pas bien.
C'était bien, hein, ça sonnait pas.
Liaison dangereuse.
Liaison dangereuse, voilà. Buvez de l'eau, voilà mon conseil. Alors je commence par la fin, superbe millésime 2022 pour le Beaujolais nouveau. Et vous trouverez donc toutes les coordonnées, les prix, les commentaires de ceux que j'ai cités et d'autres qui ne déméritent pas. Je n'ai pas détaillé les prix, mais vous trouverez dans ce carnet, allez, entre 7 et 12 euros. Alors dans l'absolu, c'est abordable. Ça reste quand même un pic festif pour des bourses étudiantes. Et de toute façon, il vous faudra être un tout petit peu patient parce que vous l'avez dit, François-Régis, il y a un embargo sur les ventes jusqu'à ce fameux jeudi 17, c'est la semaine prochaine. Reste une question. Pourquoi faire le choix de parler de jeunes vignerons ? Alors bien sûr, c'est pour coller au thème de l'émission d'aujourd'hui, les étudiants, mais aussi parce qu'ils sont la fierté retrouvée du vignoble du Beaujolais. Et parce que parler du Beaujolais nouveau, c'est effleurer une passion française, en mode « je t'aime, moi non plus ». Le Beaujolais nouveau, qu'est-ce que c'est ? C'est la Tour Eiffel. Et c'est là, justement, son problème. Nous sommes Gaulois et on aime déboulonner les idoles. Et puisque le Beaujolais nouveau est une icône, évidemment, c'est une cible. Alors évidemment, il y a eu des abus. Ça, on les connaît. Il y a eu cette levure aromatique, la 71B.
Au bon banane. Bout de banane.
Ça ouais. Dit quelque chose, apparemment. Très bien. Des rendements déraisonnables. Et puis, évidemment, une espèce de philosophie qui disait que c'est un vin qui est vite fait, qui est vite vendu. Hop, par ici, la monnaie. Tout ça n'encourageait pas à travailler la question de la qualité. Alors qu'on le veuille ou pas, le Beaujolais nouveau fait partie du récit national. Aussi, je vais m'adresser non pas à la nation, mais à vous François-Régis Gaudry, ou plutôt à l'ex-étudiant que vous fûtes, celui qui m'a confié avoir fait Beaujolais première langue. Donc je vous propose donc une petite révision, et aussi parce que ce vin est aussi fantasmé que méconnu, épuisons la question une fois pour toutes, une petite leçon beaujolaise. De quoi le Beaujolais nouveau est-il le nom ? C'est un vin primeur, ça veut dire que c'est un vin qui est vendangé une année, en l'occurrence le 2022, et qui est vendu cette même année. Donc, la semaine prochaine. Il est issu du cépage Gamay, qui est réputé pour son profil un peu fruité. Il est issu d'une vendange manuelle, et ça c'est spécialement important dans le sens où il s'agit de rentrer dans les caves des grappes qui seraient intactes, en grappes entières, avant de les mettre dans la cuve. Et ces grappes, ainsi entassées dans la cuve, celles du fond vont libérer du jus sous la pression des grappes qui sont au-dessus, et ça va initier une fermentation alcoolique avec dégagement de gaz carbonique en haut de la cuve. Qu'est-ce qui se passe? On va donc avoir une fermentation au cœur même des raisins entiers. La fermentation se passe dans les grains de raisin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation semi-carbonique. C'est un procédé qui est vecteur des précurseurs d'arômes. Alors, vous avez le droit de les goûter, vous buvez mes paroles, c'est bien, mais
non,
désobéissez un peu, soyez moins sages, buvez-les.
Ils sont gouléants, comme on pourrait le dire à l'ancienne.
Ils sont assez pleins. Hein. Vraiment, on rejette très loin le spectre des vins un peu mordants, un peu acides.
C'est là qu'on dit qu'ils ont de la cuisse, non?
Aussi.
Surtout pas.
Enfin, un peu moins avec MeToo, mais le langage du vin a évolué, on peut...
Non, ça va avec gouléant, je trouve.
Alors, allons-y. En tout cas, c'est fait. Donc, cette fermentation semi-carbonique, c'est le procédé des vins du cru. Je le dis, je le redis, magnifique millésime 2022, et ce sont des vins qui ne vont pas se faner le vendredi matin. Non, vous pourrez les garder en cave et les servir à l'aveugle, parce qu'évidemment, il faudra rentrer par effraction pour convaincre votre entourage. Voilà. Un dernier conseil pour finir, s'il y a des fêtes étudiantes, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, vous n'aurez pas mal à la tête le lendemain parce que l'alcool déshydrate d'une part, et d'autre part, ça va changer votre rapport à l'alcool parce que vous en boirez moins. Première chose. Voilà. Je pense qu'avec autant de liquide, je crois que, chers amis étudiants, nous tenons la meilleure définition de ce qu'est l'anti-sèche. Je réécouterai la chronique. Je crois que celle-ci, elle mérite 20 sur 20. Mais je sais pas comment on écrit. Wow.
Bravo. Et votre carnet de vignes consacré au Beaujolais nouveau est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, comme d'habitude, un travail de dégustation très ambitieux, voire un peu fatigant. Mais non,
j'y travaille.
Il est en pleine forme, Dominique.
J'y travaille.
Lilette, j'ai dit, le rapport des étudiants à l'alcool, évidemment, on va pas les encourager. Tout cela doit se pratiquer avec modération. Ils ont souvent mieux à faire, d'ailleurs, à étudier, pour commencer. Mais quand ils veulent boire un coup et du vin, par exemple, à une occasion un peu plus festive que les autres, quelles sont leurs habitudes?
Bah, leurs habitudes, c'est d'aller prendre au supermarché ce qui est absolument de moins cher, quoi. Donc, de la piquette, si je peux me permettre, et de se faire, se tordre un peu les boyaux, et de pas avoir vraiment de plaisir, et de soutenir des choses un petit peu discutables, voire très discutables. Donc, c'est
et
un problème.
Des alcools forts qui enivrent rapidement.
Qui enivrent rapidement, oui.
Une petite initiative que vous appréciez, justement, qui peut aider, qui peut aider nos étudiants.
Absolument. Vincent Baravel, Let It Bib. Donc, il propose des bibs, alors qui commencent à 2 litres. Donc, on précise que c'est effectivement.
Alors, bib, c'est bag in box.
Back in box,
c'est
absolument.
Une poche rétractable qui permet une consommation étalée sans perdre les qualités du vin.
Et il travaille uniquement sur des vins nature, hein, sur des vins qui sont labellisés Nature et Progrès. Il a vraiment à cœur de choisir de belles sélections avec de vrais vignerons qui travaillent la terre, etc. Et on peut être sur un démarrage de prix équivalent bouteille à 5,50€ quand même sur ces premiers vins Nature et Progrès,
donc
je le précise.
Donc on parle de vin
biodynamique. Ce qui est vraiment pas rien. Hein, et c'est une grande qualité, à un coût tout à fait raisonnable. On est sur... la pompette, par exemple.
On finit cette émission, car il nous reste juste une petite poignée de minutes, par une recette sucrée. Il y avait du cumin dans le One Pot Pasta de notre étudiant Dorian. Il y a également du cumin dans votre dessert. De quoi s'agit-il?
Je vous le dis.
Ah bah oui.
Une tarte, pomme, poire, cumin.
Alors, impression? Et pour un coup de revient?
Pour un coup de revient, 1,10€ la part. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une pâte à tarte évidemment faite maison, avec
farine
une pâte
complète,
évidemment.
C'est bon.
Je ne cuisine qu'à la farine complète, et j'invite effectivement à aller sur cette saveur-là. Et puis c'est une farine qui est plus intéressante sur le plan nutritionnel. Un petit peu de cumin parce que je trouve que la poire et le cumin se marient vraiment bien
c'est juste.
Ça amène un peu d'audace, un peu quelque chose de différent.
Puis on a le croquant de la pâte sablée.
Oui,
absolument. La pâte est délicieuse
avec un très bon beurre cru.
Et tout cela
et
pour
tout à fait abordable dans une amap.
Avec cette petite touche de cumin qui métamorphose totalement cette tarte. Un grand merci. Lila Djedi, je rappelle le titre de votre livre, Cuisine du quotidien pour étudiantes et étudiants, 60 recettes végétariennes pour petit budget. Beaucoup de cœur pour ce livre qui, encore une fois, ne se contente pas d'être qu'un livre de recettes.
Oui.
Chez Tana Édition. Et la semaine prochaine, on cultive et on cuisine les salades d'hiver avec notre pote du potager Xavier Mathias et notre italienne préférée, Alessandra Pierini. À la prochaine, Jean.
À bientôt.
À très bientôt, Dominique.
Par exemple.
Et au revoir, Lila.
Au revoir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.